Bonjour Jean Marcia, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation à participer à notre podcast sur la paix et la sécurité dans le monde. Monsieur Marcia, vous êtes colonel de l'armée belge en retraite. Vous avez été conseiller du ministre de la Défense André Flahault et conseiller de défense du Premier ministre Élodie Roupon. Vous êtes aujourd'hui président fondateur de la Société européenne de défense, un think tank qui œuvre pour la constitution d'une armée européenne et pour une Europe fédérale capable de garantir la paix, la sécurité et la démocratie pour ses citoyens. Président, la guerre a éclaté en Ukraine il y a maintenant un an. Considérant cette menace directe, mais au-delà, l'instabilité en Méditerranée ou les conflits au Sahel, et considérant également le contexte global fragilisé, l'Europe a-t-elle la capacité de se défendre et de faire face à ces menaces multiples ?
Absolument pas. La guerre en Ukraine l'a bien montré. Quand on voit les 300 000 hommes et les 3 000 chars que Poutine a lancés à l'attaque de l'Ukraine, nous n'avons absolument pas les moyens de nous y opposer sans une intervention massive des Américains. On le voit bien, depuis quelques semaines, les Européens se préoccupent de fournir un certain nombre de chars à l'Ukraine pour l'aider à compenser les pertes subies. Et on nous annonce, après presque 2 mois de palabres, qu'on va trouver 100 de chars à offrir aux Ukrainiens, tout simplement parce que nous n'en avons presque plus, ou en tout cas presque plus, qui sont opérationnels, qui sont en état de fonctionner. Donc ça montre bien l'énorme déséquilibre des forces classiques entre la Russie actuelle et l'Europe. De même, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme islamiste, les Français et les Européens, en appui aux Français, ont pendant plusieurs années, depuis 2013, depuis l'époque où j'étais conseiller d'Élodie Roupon, l'opération Serval puis Barkhane, nous avons essayé de contrer le développement de ces forces terroristes au Sahel. Et puis finalement, on a dû constater que les Européens devaient se retirer, essentiellement les Français, mais aussi les alliés européens, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas capables de générer suffisamment de moyens que pour faire face à une menace répartie sur un territoire absolument gigantesque. C'est donc pas avec 5000 hommes que l'on pouvait faire l'affaire, ne fût-ce que dans la région des frontières. J'avais calculé à un moment donné que chaque soldat européen devait contrôler à lui tout seul l'équivalent de la Corse. Donc on se rend compte qu'il y avait une disproportion totale entre la mission à remplir et les moyens mis sur place. Dans le domaine maritime également, on constate qu'il y a toujours des attaques de piraterie du côté de la Corne de l'Afrique, mais aussi dans la région du Golfe du Guinée. Et là aussi, l'Europe est capable d'envoyer quelques navires pour essayer de juguler ces menaces, mais c'est évidemment tout à fait insuffisant que pour garantir une liberté totale de navigation. Donc, quel que soit le domaine, on constate que l'Europe n'a pas suffisamment de capacités militaires, alors qu'elle dépense beaucoup. On pourrait dire que l'ensemble des budgets européens de défense, pas uniquement ceux de l'UE, pas uniquement ceux de l'OTAN, mais tous les pays européens considérés ensemble, d'après les statistiques du Stockholm International Peace Research Institute, ça fait entre 1/3 et 50% des dépenses américaines, mais nous sommes très très loin d'avoir entre 1/3 et 50% des capacités militaires américaines. Selon mon estimation, on doit tourner autour de 5 à 6%. Certains prétendent que c'est 10%, mais ça dépend peut-être des domaines. Mais de toute manière, ça montre bien qu'il y a chez nous une très mauvaise utilisation des dépenses de défense. Il y a un gaspillage énorme de ressources financières et humaines, parce que le contribuable européen paye tous les mois 1,5 million de militaires d'actifs. C'est plus que les Américains, mais ils sont mal équipés, mal formés, insuffisamment entraînés que pour partir en opération.
Depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de qu'est-ce qui a changé en matière de défense en Europe? On voit qu'il y a un soutien à l'Ukraine de la part des États membres de l'Union européenne de manière souveraine, que ça se fait aussi plus ou moins en coordination à échelle de l'Union européenne, mais aussi dans le cadre de l'OTAN. Mais peut-on parler pour autant d'un renforcement d'une défense européenne?
Alors, qu'est-ce qui a changé? D'abord, une perception de la menace. Beaucoup de ceux qui, pendant 20, 30 ans, ont mis la tête dans le sable, se sont tout à coup réveillés, sortant d'un mauvais rêve. Qu'est-ce qui a encore changé de manière assez visible? L'OTAN, dont M. Macron nous disait il y a un peu plus d'un an qu'elle était en état de mort cérébrale, a très clairement pris le pas sur l'Union européenne parce que l'OTAN, c'est la volonté américaine, ce sont des moyens d'état-major, etc., qui peuvent avoir leur utilité pour gérer une crise comme celle-là, tandis que l'Union européenne, une fois de plus, a affiché son incapacité à gérer les crises. Qu'est-ce qui a changé aussi? C'est dans la perception des militaires, à qui on avait dit vous devez abandonner les capacités à utiliser en cas de guerre de haute intensité et vous concentrer sur les opérations de contre-insurrection. Donc on est passé des véhicules lourds à chenilles aux véhicules légers, sur roues, etc., etc. Beaucoup ont dit à l'époque, mais ça, c'est courir un risque que de laisser tomber complètement ces capacités lourdes, ce qui ne vaudrait pas mieux, stocker ces matériels, les coconiser pour pouvoir à un moment donné, si les menaces reviennent, les sortir des dépôts et les remettre en état de marche, mais aussi de garder suffisamment de personnel capable de s'en servir que pour constituer une force de première réaction et former alors les gens qu'on recruterait pour reconstituer des capacités plus importantes. Donc, au niveau de l'opinion publique, au niveau des militaires, cette prise de conscience a été immédiate et très, très importante. Ce qui est dramatique de constater, c'est qu'au niveau des masses-médias et des décideurs politiques, rien ne change. On continue à faire comme si rien n'avait changé. On continue à appuyer des discours tendant à faire croire aux gens que, dans le cadre de l'Union européenne, on constitue un embryon de défense européenne, ce qui est faux. Seuls les États ont la capacité de générer des capacités militaires parce que l'État a le monopole de l'usage de la force, le monopole de l'usage légitime de la force. Donc, on ne sait pas le faire dans le cadre de l'Union européenne puisque ce n'est qu'une association d'États selon la définition intelligemment donnée par la Cour fédérale de Karlsruhe, qui a remis à leur place les théoriciens du droit européen qui, depuis 1950, nous racontent des sornettes. Par exemple, ça a commencé avec le discours de Robert Schuman, qui, le 9 mai 1950, à deux reprises, a annoncé qu'on allait vers une fédération européenne, mais qui, dans le dernier passage de son discours, a dit qu'il allait réaliser cette fédération au moyen d'un traité. Et donc, c'est là l'explication pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne se fait pas. Vous ne savez pas faire une fédération sur base d'un traité. Un traité, c'est l'expression de la volonté d'État souverain. Ce n'est donc pas la prémisse d'un abandon de souveraineté. Un traité n'est pas capable de définir, comme le fait une constitution, le contrat social qui lie la fédération et les citoyens de cette fédération, qui définit les droits et devoirs respectifs. Le traité ne va pas définir non plus les outils nécessaires en matière de constitution d'une défense européenne, puisque par définition, celle-ci n'est pas réalisable.
Donc, justement, la société européenne de défense préconise la constitution d'une armée européenne, fondée notamment sur un processus constituant qui pourrait garantir la légitimité d'une politique de défense européenne. Est-ce que vous pourriez nous présenter justement la position de la Société européenne de défense, ce que vous promouvez, défendez dans le cadre de la Société européenne de défense?
Oui, donc, depuis la constitution de cette association internationale sans but lucratif en 2015, nous plaidons pour une amélioration de la position de l'Europe, qui devrait constituer, selon nous, un pilier européen crédible au sein de l'Alliance Atlantique. Mais pour réaliser cela, dans les conférences que j'ai données en très grand nombre depuis 2015, on est à 265 à peu près, lors des questions-réponses, les gens me disaient « Bon, on comprend bien pourquoi il faudrait faire cela, mais comment allez-vous le faire ?» Et la réponse à cette question « Comment ?» la réponse à cette question « Comment ?» a nécessité que nous rédigions un ouvrage qui s'intitule « Une constitution fédérale pour les États-Unis d'Europe ». Alors, si on ne passe pas par ce processus constitutionnel, on ne peut arriver qu'à une forme de milice privée. Je dirais un groupe Wagner, hein, que, tristement célèbre en Ukraine, mais aussi en Afrique, parce qu'une milice privée, il faudrait bien l'appeler comme ça, n'aurait pas cette légitimité. Elle n'aurait surtout pas, au niveau européen, un commandant en chef crédible, qui soit politiquement, juridiquement, légalement responsable, lorsque on dirait que cette force doit intervenir pour une opération de maintien ou de rétablissement de la paix, mais aussi peut-être tout simplement pour une opération humanitaire. Et, je citerai par exemple venir en aide aux populations de Turquie et de Syrie qui ont été victimes de ce tremblement de terre. Eh bien, ce genre de mission n'est pas exempte de risque. Or, quand vous envoyez des gens dans des missions à risque, vous avez toujours la possibilité que certaines personnes reviennent dans des body bags, hein, à l'état de cadavre, que des personnes soient blessées, restent handicapées à vie, etc. Donc il y a évidemment une responsabilité très importante qui doit être prise par quelqu'un qui est légitimement habilité à prendre cette responsabilité, qui a le pouvoir politique de le faire, qui a les ressources matérielles, budgétaires notamment, pour le faire, et qui, en cas de pépin, va devoir faire jouer sa responsabilité, se justifier politiquement, se justifier juridiquement et éventuellement être à même d'indemniser les gens qui auraient subi des dommages. Donc tout ça ne peut se faire que dans le cadre d'un État. Voilà en gros comment nous voyons les choses. Et nous disons que depuis 1849, hein, Victor Hugo a été le premier à notre connaissance à parler d'États-Unis d'Europe dans son fameux discours au Congrès de la paix. Et la façon de procéder pour réaliser une fédération d'États, c'est bien connu depuis 1787. Donc je veux dire, ce n'est pas quelque chose où nous innovons particulièrement. Il y a 89 États fédéraux dans le monde. Tout le monde sait plus ou moins comment il faudrait faire pour synthétiser ce processus. Ben, il faut à un moment donné élire une assemblée constituante qui pourrait être le Parlement européen à condition qu'il accepte de remplir cette mission. Il faut que cette assemblée constituante, d'une part, décide de rédiger un texte constitutionnel qui définit, comme je l'ai dit tout de suite, le contrat social, qui définit quelles sont les institutions dont on veut bénéficier. Dans le respect, bien sûr, de l'esprit des lois de Montesquieu, il faut un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire. Mais pour le pouvoir exécutif, bon, est-ce qu'on veut une monarchie? Est-ce qu'on veut une république? Est-ce qu'on veut une république à la française ou une république à l'allemande? Voilà. Et alors pour le législatif, est-ce qu'on veut un système monocaméral ou, comme le plus souvent dans les fédérations, une assemblée qui représente le peuple et une assemblée qui représente les États? Voilà ce qu'il faut mettre dans cette constitution donc pour les deux premiers chapitres. Puis le troisième chapitre définit succinctement quelles sont les compétences que l'on va donner à ce pouvoir fédéral. Et là, bon, les Européens connaissent bien, je pense, le principe de subsidiarité, qui remonte au XVIIe siècle, mais qui a été, à la base de beaucoup de textes législatifs, même au niveau de l'Union européenne, parce que quand on parle d'une construction politique qui va depuis la municipalité vers la région, vers l'État-nation, et puis envisager une forme de gouvernance européenne et même une forme de gouvernance mondiale, parce que lutter contre la pollution marine, on imagine bien, ou de l'air, on imagine bien que si on n'aborde pas ces problèmes-là au niveau mondial, on n'y arrivera pas. Mais si on se concentre sur la question de l'Europe, on voit bien qu'il faut, et ça s'est fait progressivement depuis 1950, se mettre d'accord sur qui fait quoi. Qu'est-ce qui reste au niveau des États-nations ? Par exemple, jusqu'à présent, et malheureusement, la défense nationale. Par contre, on a donné au niveau européen, Union européenne, des compétences non négligeables, par exemple en matière monétaire, ce qui représente un transfert de souveraineté important, mais pas décisif. On a aussi donné, depuis le début, depuis le traité de Rome, à l'Europe la compétence de décider pour ce qui est du marché unique, des droits de douane, des négociations commerciales avec d'autres puissances. Donc on voit bien que ce processus de répartition des compétences, il est amorcé en Europe, mais il n'est pas abouti, justement parce que l'Europe n'est qu'une association d'États et qu'on n'a pas passé le cap d'aller vers une forme de fédéralisme. Donc je dirais qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un ensemble composite où on retrouve certaines caractéristiques d'une simple alliance, où on retrouve certaines caractéristiques d'une forme de confédération, parce que le Conseil européen, ce sont des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent et qui décident, très souvent d'ailleurs, à l'unanimité. Donc ça fait penser plutôt à un système confédéral. Et il y a quelques éléments fédéraux, la Cour de justice de l'Union européenne et la Banque centrale européenne, mais c'est évidemment tout à fait insuffisant que pour poser les bases de quelque chose qui pourrait déboucher sur une défense européenne.
Très bien. Dans votre projet tel que vous l'exposez, vous placez la défense comme l'un des piliers centraux d'un État fédéral européen, des États-Unis d'Europe. Est-ce qu'il y a d'autres piliers qui vous paraissent tout aussi importants et qui seraient en mesure de garantir une légitimité démocratique et qui pourraient, aller dans le sens de votre ambition au niveau de la citoyenneté?
Oui, parce que quand nous sommes partis de l'approche défense, évidemment, eu égard à notre formation, à notre expérience professionnelle, etc. Et aussi parce que nous pensons qu'aujourd'hui, un des secteurs où l'Europe est la plus en demande d'une évolution, d'une construction, c'est ce domaine de la sécurité et de la défense. Nous l'avons vu en 2015 avec les attentats terroristes qui ont frappé nos territoires. Nous le voyons avec la guerre en Ukraine. Donc sécurité intérieure, sécurité extérieure sont malheureusement redevenus des sujets prioritaires, alors que pendant une trentaine d'années, certains avaient eu tendance à les oublier. Mais c'est évidemment pas du tout le seul sujet qui devrait être traité au niveau fédéral. Nous l'avons vu lors de toutes les crises qui ont frappé l'Europe depuis 2008, à quel point le système de l'Union européenne était défaillant. L'Union européenne a très mal fait face à la crise financière de 2008. Et pendant près de 10 ans, on en a payé les conséquences économiques. Alors qu'aux États-Unis, ils avaient réglé le problème en un an. Tout simplement parce que, à côté de la Banque centrale, les États-Unis disposent d'un gouvernement fédéral, d'un budget fédéral qui pèse plus de 30% du produit intérieur brut, tandis que chez nous, l'Union européenne, c'est 1% du produit intérieur brut. Donc, l'Union européenne n'a pas du tout les moyens d'assister la Banque centrale européenne pour mettre fin à une crise financière du type de celle de 2008. Même chose lors de la crise monétaire de 2010, avec l'idée de faire sortir la Grèce de l'Union européenne. Même chose avec la crise migratoire de 2015. Les États, c'était un peu le chacun pour soi, et on a détricoté les accords de Schengen pour reconstruire des frontières avec des barbelés un peu partout. Et puis on a eu la pandémie 2019, 2020, 2021, et là aussi, ça a été un peu le n'importe quoi. Donc vous voyez bien que la nécessité d'une Europe fédérale qui puisse effectivement prendre en charge notre sécurité, notre défense, elle est présente dans un nombre important de domaines. Et si vous voulez créer une armée européenne, vous devez avoir des outils qui permettent de renforcer la citoyenneté européenne. Aujourd'hui, les Européens sont des citoyens européens parce qu'ils sont citoyens des États membres, mais il n'y a peut-être pas suffisamment la notion de patriotisme européen. Or, cette notion de patriotisme européen, elle existe un peu parce que nous nous sentons européens, mais est-ce que les gens mourraient aussi facilement, est-ce qu'un Français mourrait aussi facilement pour l'Europe qu'il mourrait éventuellement pour la République française? On peut en douter. Voilà, parce que l'Europe, c'est un peu plus vague que l'État-nation avec lequel nous vivons depuis les traités de Westphalie de 1648. Donc, il faut, pour constituer une armée et des militaires motivés, et pour créer des militaires motivés, il faut susciter ce sentiment de citoyenneté, ce sentiment de patriotisme. Ça, seul un État fédéral peut le faire. Il faut aussi, pour avoir une armée européenne, avoir une base industrielle et technologique de défense suffisante. Si vous êtes obligé d'importer tout votre matériel militaire, par exemple des États-Unis ou de Corée du Sud ou que sais-je, vous avez un problème de sécurité d'approvisionnement. En cas de pépin, est-ce que les pièces de rechange, est-ce que les munitions vont continuer à arriver? Et qui peut renforcer la base industrielle et technologique de défense? Pas les États-nations, évidemment, c'est chacun pour soi, par l'Union européenne, puisque nous constatons qu'elle en est à peu près incapable depuis les années 1950. Donc il faut un État fédéral aussi pour renforcer la base industrielle européenne. Et dans le domaine de la défense, de la sécurité, du spatial, certainement, mais aussi dans des tas d'autres domaines. Nous avons vu lors de la pandémie à quel point nous étions dépendants de l'approvisionnement venant de Chine en termes de médicaments, de masques, d'équipements respiratoires, etc., etc. Donc, dans le cadre d'un État fédéral, il serait possible d'identifier quels sont les secteurs critiques pour notre sécurité d'approvisionnement et de mettre en place une politique industrielle qui fasse en sorte que nous ne soyons plus démunis à l'avenir dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la sécurité et de la défense, mais aussi dans le domaine énergétique, par exemple. Nous avons vu quand M. Poutine a transformé l'énergie en arme de guerre, à quel point, au début, les Européens étaient dépourvus, et il a fallu des mois pour que, par bribes et morceaux, on arrive à diversifier nos sources d'approvisionnement au prix d'un renchérissement considérable de l'approvisionnement en énergie, ce qui handicape notre économie par rapport à nos concurrents internationaux et donc met à mal notre croissance et notre bien-être. Donc tout ça fait partie de la problématique, de la justification d'un effort vers une Europe fédérale. Et alors vous parlez de cette question de la légitimité. Aujourd'hui, pour faire une armée, comme je l'ai dit, il faut nécessairement un pouvoir politique légitime, mais il faudrait aussi que dans les autres domaines d'action, l'Europe, l'Union européenne, ait une légitimité beaucoup plus grande que ce n'est le cas aujourd'hui. Prenons le cas du Parlement européen. Il existe depuis 1952. Depuis 1979, il était élu directement, mais on ne lui a toujours pas donné la plénitude des pouvoirs d'une assemblée parlementaire populaire. Ce n'est pas le Parlement européen qui vote et qui démet les ministres européens, ce n'est pas le Parlement européen qui décide en matière de budget. Oui, il a un petit mot à dire, mais donne un avis. Mais en réalité, c'est le Conseil européen qui est l'organe de décision. Et tout ça fait que ce n'est pas suffisamment légitime. Et il faudrait donc, dans tous les domaines, faire en sorte que l'Europe devienne plus démocratique, plus transparente, plus efficace. Et ça, seule la gouvernance fédérale peut apporter cette solution.
Et c'est un projet que vous souhaitez mettre à l'agenda des prochaines élections européennes de 2024. Vous avez notamment publié un manifeste qui va dans ce sens-là. Justement, que représente pour vous, dans le contexte de menaces aux frontières de l'Europe et de guerre en Ukraine, ces élections? Justement, est-ce que c'est le moment pour traiter, dans le cadre d'une campagne électorale européenne, les questions que vous soulevez et votre ambition?
L'échéance de 2024, nous l'avons en tête depuis plus de 4 ans, et notamment la Société européenne de défense avait mis, dès avant les élections européennes de 2019, en place un plan d'action qui se prolongeait jusqu'aux élections européennes de 2024. Et donc aujourd'hui, nous sortons ce manifeste parce que c'est effectivement une opportunité à ne pas manquer. Alors la guerre en Ukraine, évidemment, renforce notre propos. Et la guerre en Ukraine a conscientisé les citoyens, les électeurs, pas encore les partis politiques, nous le déplorons tous les jours, mais nous disons qu'il y a aujourd'hui une opportunité qu'il ne faut pas manquer, parce que si on rate cette opportunité de 2024, eh bien la solution à nos problèmes fondamentaux, ce ne sera pas avant 2029. Donc, dans ce but-là, nous avons pris contact avec un certain nombre d'associations qui représentent la société civile européenne. Il s'agit de dizaines et de dizaines d'associations. Nous avons rédigé un manifeste pour des élections européennes de 2024 plus démocratiques, parce que cette démocratie renforcée, c'est la clé pour plus de légitimité et c'est la clé pour pouvoir prendre un certain nombre de mesures fortes pour rendre l'Europe plus forte, plus unie, plus démocratique, plus efficace. Alors, nous ne sommes pas naïfs, nous ne pensons pas que d'un coup de baguette magique, tout à coup, les 27 États membres de l'Union européenne ou les 20 membres de la zone euro, ou, on peut multiplier les exemples, que la grande masse des États européens vont en 2024 dire « Ok, nous passons à l'étape fédérale ». Nous croyons au mérite des petits noyaux plus motivés que les autres, qui avancent plus vite que les autres, mais qui restent ouverts aux autres. Parce que l'Europe s'est construite qu'un comme cela depuis 1948, si je me rappelle bien, donc avec les premiers mouvements qui ont abouti à la création du Conseil de l'Europe. Si je me rappelle bien, c'était en 1950. Et puis, à partir du discours de Schuman en 1951, il y a eu la CECA à 6. Mais avant la CECA, il y avait le Benelux à 3. Puis, les 6 ont évolué et se sont élargis jusqu'à être finalement 28 avant le Brexit. Donc, le tout, c'est de trouver 1, 2, 3 gouvernements, si possible, de petits pays, parce qu'ils sont moins imbibés d'esprit nationaliste que les grands pays. Ben, si on pouvait trouver un petit noyau de volontaires pour démarrer, je pense qu'on pourrait progresser à partir de 2024. Et pour le moment, la Société européenne de défense, et depuis un an à peu près, met un effort maximal à convaincre les pays d'Europe centrale et orientale de prendre le lead, comme on dit en anglais, de prendre l'initiative de ce mouvement. Parce que nous constatons que depuis 1950, l'Europe des 6, l'Europe occidentale, ne l'a pas fait. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'on pourrait inventer pour faire bouger ces États-là. Mais par contre, du côté de l'Est, où au départ, ils ont été peut-être un peu plus tièdes vis-à-vis de l'Europe et plus préoccupés de leur sécurité et donc de l'OTAN, aujourd'hui, ils sont confrontés à la menace russe. Ils la sentent beaucoup mieux et beaucoup plus fort que les Européens de l'Ouest. Et donc, nous espérons que ce pourra être l'élément qui va motiver quelques-uns de ces États-là à franchir le pas.
Je vous remercie pour cette présentation et votre contribution à notre réflexion sur la paix et la sécurité dans le monde. J'ai une dernière question, étant donné que l'Alliance progressiste réunit des partis politiques à travers le monde. Comment voyez-vous ces États-Unis d'Europe dans leur relation, justement, avec le reste du monde. C'est un sujet qui intéresse fortement nos membres. Voilà, donc quels seraient les principes de ces relations entre les États-Unis d'Europe sachant que vous placez évidemment la démocratie au cœur de cette constitution.
Oui, nous plaçons la démocratie et le maintien de la paix, parce que quand nous parlons de défense, ce n'est pas pour plaisir de faire une défense, c'est pour maintenir ou rétablir la paix si elle a été mise à mal. Et cela nécessite de remettre en place un système de gouvernance mondiale basé sur une forme de multilatéralisme qui était fortement mise à mal avec l'émergence des autocrates chinois, russes, turcs, etc., mais aussi à l'époque où les États-Unis étaient dirigés par M. Trump, il avait manifesté un très grand dédain pour le multilatéralisme et pour des relations internationales basées sur le droit, mettant plus l'accent, comme les autocrates, sur les rapports de force et sur la réalpolitik. Donc pour revenir, je pense que pour revenir à une forme plus pacifique, plus civilisée de relations internationales, je crois que nous croyons que l'Europe peut jouer un rôle important à condition qu'elle ait suffisamment de force que pour pouvoir de nouveau faire passer ce message. Donc si nous considérons aujourd'hui les relations internationales, nous voyons qu'il y a un très grand nombre d'États qui sont présents à l'Assemblée générale des Nations unies, mais qu'il y a un certain nombre d'États qui ont une taille, une population, une puissance militaire qui dépasse très largement la moyenne de tous ces petits États. Donc, pour que l'Europe puisse se faire entendre par ces quelques grandes puissances, eh bien, il faudrait que l'Europe s'exprime d'une seule voix. Et malheureusement, nous savons que la question a déjà été posée par Henry Kissinger à l'époque lointaine de la guerre du Vietnam. Il disait « À quel numéro de téléphone puis-je appeler l'Europe ?» Eh bien, on n'a toujours pas résolu ce problème puisque nous avons un président du Conseil européen, une présidente de la Commission européenne, un président ou une présidente du Parlement européen et un haut représentant. Et donc, les dirigeants internationaux ont déjà 4 possibilités de téléphone au niveau européen. Et en plus, ils savent très bien que ces gens-là ne comptent pas vraiment et que ce qui compte, ce sont les chefs d'État ou de gouvernement de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, etc. En 2018, j'avais été invité à aller voir mon ami l'ambassadeur de Belgique en Iran et on a posé la question de savoir que pèse un ambassadeur de Belgique à Téhéran. Relativement peu de choses, mais des liens historiques anciens font que ça reste... Il y a un courant qui passe. Alors je posais la question de savoir, et le représenté de l'Union européenne. Alors là, la réponse était très claire. En fait, il ne sert à rien. Quand les Iraniens veulent connaître le point de vue de l'Europe, ils convoquent l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Grande-Bretagne et l'ambassadeur d'Allemagne, et si ces trois-là disent la même chose, alors ils se font une opinion de ce que veut l'Europe. Donc, voilà, encore une fois, si on veut changer les relations internationales et revenir à un monde apaisé, à un monde où les relations sont basées sur le droit, il faut absolument que l'Europe se muscle et que l'Europe parle effectivement d'une seule voix, et ça, ce n'est possible que dans le cadre d'une structure fédérale où on a délégué au niveau de la fédération une partie seulement des relations internationales. Il est bien évident que si on crée les États-Unis d'Europe, on ne va pas interdire à la France, à la Belgique francophone, au Luxembourg, à la Suisse, de continuer à avoir des relations au sein de la francophonie avec les autres pays dans le monde qui parlent français. On ne va pas interdire à la Flandre et aux Pays-Bas et à d'autres pays qui utilisent encore le néerlandais ou une forme approchée, comme l'Afrique du Sud, de communiquer entre eux. Donc, c'est ça l'importance du principe de subsidiarité, c'est qu'il faut fédérer ce qui est indispensable et surtout laisser aux États-nations, aux régions et aux municipalités les compétences qui sont de leur niveau, de façon à ce que le pouvoir s'exerce au plus près du citoyen. Voilà un peu comment nous voyons les choses.
Monsieur Marcin, je vous remercie énormément pour votre contribution très claire. Nous publierons avec plaisir le manifeste sur le site de l'Alliance progressiste très prochainement. Merci encore.